Eh bien voilà, aujourd'hui donc on va avoir un petit message qui est important sur la décision la plus importante qu'on peut prendre dans notre vie. Donc j'ai mis la chose suivante là-haut, tu as pris beaucoup de décisions dans ta vie, certaines que tu ne regrettes pas et d'autres que tu regrettes peut-être amèrement. Mais la meilleure décision que tu prendras est celle de venir à Jésus et de le suivre. D'accord. Donc on va se baser sur un passage qui est dans Matthieu 11, à partir du verset 2. Donc le sommaire, il est là, mais bon, pas besoin de le retenir, de toute façon, moi-même je ne le retiens pas. Donc, à partir du verset 2, nous lisons la chose suivante. Alors, avant de le lire, je vais quand même préciser un certain nombre de choses. Il va nous être parlé de Jean-Baptiste. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, une connaissance biblique qui est très poussée, Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, son aîné de 6 mois, et il a été le prophète que Dieu a envoyé pour préparer la venue de Jésus, pour préparer la venue du Seigneur. Et Jean-Baptiste, donc, il est à la charnière entre, si vous voulez, la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Donc il est celui qui va être, alors qu'il y avait eu 400 ans de silence, c'est-à-dire pendant 400 ans, il n'y a rien eu entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, et l'évangile, la venue de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ par la suite. Donc Jean-Baptiste, il a été celui qui a été rempli dès le sein maternel du Saint-Esprit. Hein. Il a été appelé à être prophète et à un moment donné, à un certain âge, il est allé prêcher. C'est un homme très spécial. Il s'habillait avec une peau de chameau, il avait une ceinture de cuir et il mangeait des sauterelles et du miel. Bon appétit. Il buvait aussi de l'eau, c'est pas mal. Hein bon. Donc, voilà. Donc, et lui, il a prêché, donc il y avait une certaine forme d'ascétisme, de raideur dans son message aussi. Il était quand même assez sans compromis. C'était un homme direct qui était sans compromis, qui ne cherchait pas à plaire aux hommes et qui restait droit dans ses bottes, Jean-Baptiste. Vraiment un homme très droit, un homme de Dieu incroyable. Et donc, il a été amené à prêcher au peuple avant que Jésus arrive. Il a annoncé le royaume de Dieu, on va en parler, du royaume de Dieu. Et il disait aux gens de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Donc les gens venaient à Jean-Baptiste, il leur parlait, il leur disait « Le royaume de Dieu va venir là, et il faut vous préparer. Et pour cela, il faut que vous renonciez à vos péchés, que vous vous fassiez baptiser pour le pardon de vos péchés. » Et il disait « Après moi, il y a quelqu'un qui va venir qui est vachement plus puissant que moi. » Et cette personne-là, eh bien, c'est elle qui, d'un côté, vous baptisera du Saint-Esprit et de l'autre côté, vous baptisera de feu. Ce n'est pas la même chose. C'est la grâce d'un côté et le jugement de l'autre. Donc, il y aura une séparation. Il y aura deux chemins possibles. Et donc, tout le ministère de Jean-Baptiste a été donc cette préparation à la venue de Jésus-Christ. Il a préparé le peuple en leur disant, voilà, il faut renoncer à vos péchés. Et quelqu'un va venir qui est plus grand, qui est plus puissant que moi. Alors, j'ai dit qu'il prêchait le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Même si vous regardez dans un dictionnaire biblique, vous verrez que c'est un sujet qui est en discussion. Alors, je vais essayer de faire simple. Le royaume de Dieu, on va dire que c'est une sphère, le domaine spatio-temporel, donc le temps, l'espace, la matière, et aussi spirituel, parce que ça ne concerne pas que des choses qui sont uniquement matérielles, où la volonté de Dieu s'accomplit de manière parfaite. Et le royaume de Dieu, à l'époque du judaïsme de Jésus, était une grande espérance. Les Juifs, ils attendaient une chose, c'est que Dieu instaure son royaume sur la terre et qu'il y ait la résurrection des morts. Mais ils savaient que ce serait précédé du jugement, car tout le monde ne rentrerait pas dans le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est donc un royaume où Dieu règne, cette sphère où Dieu règne, mais ceci le royaume de Dieu. Donc le roi de ce royaume, c'est qui? C'est Dieu. Donc voilà. Et comme c'est un, comment dirais-je, comme c'est un royaume, il y a des citoyens. Et donc il faut y rentrer dans son royaume, parce qu'on ne naît pas citoyen du royaume de Dieu, naturellement. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, ne naît de Dieu, eh bien il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il n'y a pas cette nouvelle naissance, cette régénération, on est en dehors du royaume, même si on est religieux, même si on est croyant, même si on a de l'expérience, même si on a des connaissances, même si on est instruit, même si on est bien élevé, et même épatin, couffin et tout ça. Donc, on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme ça. De même que si quelqu'un décide de devenir citoyen d'un certain pays, la France ou je ne sais pas quoi, on ne devient pas citoyen français comme ça. Demandez à notre très chère sœur Stéphanie, elle va vous expliquer. On ne devient pas citoyen d'un royaume comme ça. Si vous demandez la nationalité américaine, il va falloir faire un certain nombre de choses. Et ça devient d'ailleurs de plus en plus compliqué. Mais bon, ce que Jean-Baptiste faisait, c'est de préparer les gens. Il leur disait, voilà, il va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi, c'est le Messie. C'est lui qui va vous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le roi. C'est lui le roi de ce royaume, et on va le voir. Et donc, après avoir annoncé tout ça, le pauvre Jean-Baptiste, il se retrouve en prison. Car il avait dit à un homme important, un roi, un souverain qui régnait sur une petite parcelle de la Palestine, il lui a dit, tu as pris la femme de ton frère, c'est interdit par la loi de Dieu. Alors Jean-Baptiste, lui, il était droit. Hein. Il disait aux gens pas ce qu'ils avaient envie d'entendre. Il disait aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Vous voyez la nuance? Et il a dit donc à Hérode, c'est quelqu'un de la famille d'Hérode, ce n'est pas Hérode le Grand, c'est un de ses descendants. Il lui a dit, non, tu ne peux pas vivre comme ça. Donc l'autre, ça ne lui a pas plu. Il l'a fait mettre en prison. C'est tout l'avantage de vivre en démocratie, n'est-ce pas? Et plus tard, donc, Hérode sera même tué. Et on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais il sera martyrisé par des gens qui le haient à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Vive la démocratie. Et du fond de sa prison, notre ami Jean-Baptiste, il entend parler de Jésus. Lui, il est en prison, donc il ne le voit plus. Mais il entend parler de Jésus, il entend parler de ce que Jésus fait. Il va de ville en ville, il accomplit des miracles, il prêche, il enseigne, il témoigne. Il fait ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Et à partir du moment où il a été revêtu de la puissance de Dieu, il a été tenté par le diable, il a résisté, il a donc triomphé. Et après, il est allé prendre les dépouilles. Hein. Quand vous gagnez la bataille, vous prenez le butin. Donc Jésus, il a lié l'homme fort, comme on dit, et après, il est allé prendre toutes ses dépouilles. Donc il est allé dans les régions et il a annoncé le royaume de Dieu. En annonçant le royaume de Dieu, il y avait aussi les signes qui accompagnaient le royaume de Dieu. Donc des prodiges, des miracles, des guérisons, des résurrections de morts, les démons qui sont chassés. Tout ça, c'est le signe du royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu est le pardon des péchés. Jésus pardonnait aussi les péchés, ce qui était choquant, parce que seul Dieu pardonne les péchés. Donc, qui est ce Jésus? Bonne question, n'est-ce pas? Et on le voyait, on va le voir dans les détails, les miracles de Jésus, c'est extraordinaire. Et donc, il y avait donc cette confrontation, Jésus qui venait, qui annonçait le royaume. Jean-Baptiste en entendait parler, et il se demandait si c'était bien lui le Messie. Et donc, il pose la question. Nous lisons à partir du verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que le Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples, donc des disciples de Jean. Ils lui demandèrent, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Question. Autrement dit, es-tu le Messie ou alors tu es un prophète et puis il y en aura un autre? Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez. Est-ce que vous voyez? Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Chacune de ces phrases-là, ça correspond à des choses dont l'Ancien Testament a parlé, a annoncé, en les attribuant au royaume de Dieu, au règne du Messie. Tout ce que Jésus a dit et fait, ce sont des choses qui sont annoncées dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et Jésus, quand il va arriver, il va juste accomplir ces choses-là. Parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Christ. C'est important de dire ça, parce que, vous savez, quand vous parlez avec des gens, ils vont vous dire pourquoi Jésus n'est pas un autre. Parce qu'il est le Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce que ce qu'il a fait, vous le trouvez nulle part ailleurs, dans aucune spiritualité. Ce que fait Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il a fait, vous le trouvez nulle part ailleurs. Et en plus, il est ressuscité des morts, et il est vivant à tout jamais. Alors, on va un peu parler des œuvres de Jésus. On peut avancer. Les œuvres de Jésus, là, j'ai quatre slides pour ça. Alors, on va juste les survoler. L'idée est d'avoir une petite notion de la variété, de l'ampleur et de la puissance de ce que Jésus a fait. Là, on va surtout insister sur le côté miraculeux. Donc, Jésus a purifié les lépreux. Nous, on dit comme ça, purifier les lépreux. Alors, la lèpre dont il est parlé, c'est pas la lèpre qu'on connaît aujourd'hui, cette maladie-là qui vous ronge les morceaux du corps. Cette lèpre-là, c'était une maladie différente. On l'appelait la lèpre. Mais surtout, ce qu'il y avait, c'est que selon la loi de Moïse, cette lèpre rendait les gens impurs. Donc, ils étaient exclus de la société. Ils devaient crier devant eux, impurs, 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 et se cacher un peu. Donc, ils étaient exclus de la société. Mais quand ils venaient à Jésus et qu'ils disaient « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus, ému de compassion, « Je le veux, sois pur ». Mais nous, on a l'habitude de lire ça, on lit ça, « Je le veux, sois pur ». Mais qui peut dire « Je le veux, sois pur » et purifier le lépreux instantanément ? Qui peut dire ça ? Qui fait ça ? Jésus le fait. Jésus, il prend quelqu'un qui est exclu de la société, hop, il le réintègre. Jésus fait ça. Il fait ces choses-là. Il guérit les malades. Et il guérit les malades, même à distance. Donc, quand il y a eu cet officier romain qui est venu le voir parce qu'il avait un serviteur auquel il tenait énormément, qui était malade, il ne voulait pas le perdre, il va voir Jésus, il dit voilà, il est malade. Viens, tout ça. Non, il n'a même pas dit viens. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade, guéris-le, tout ça. Et Jésus dit, je vais venir. Et l'officier romain dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Dis une parole, il est guéri. Dis une parole et il est guéri. Mais qui guérit une personne en disant une parole ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Jésus, il le fait. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Christ. C'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est le Roi du Royaume. C'est celui qui établit le Royaume de Dieu. C'est le Messie, c'est le Fils du Dieu vivant. Après, il pardonne les péchés. On lui amène un paralytique, le pauvre, il ne pouvait pas se déplacer. Jésus était dans une maison, il y avait tellement de gens dans la maison qu'évidemment, il n'y avait pas de place pour faire passer quelqu'un sur un brancard. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On va passer par le toit, on va enlever les tuiles, on va descendre le brancard juste devant le Seigneur. Et quand Jésus a vu leur foi, l'importance de la foi, vous voyez, quand on prend Dieu au sérieux, la foi c'est prendre Dieu au sérieux. C'est pas... Les gens ils se posent des questions, la foi, est-ce que j'ai la foi ? Tu prends Dieu au sérieux, tu crois, parce que tu le prends au sérieux. Et donc là, Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Grand choc ! Tous les religieux ont dit, mais il est fou celui-là. Il est en train de blasphémer. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Mais Jésus, lui, il pardonne les péchés. Alors c'est qui Jésus ? C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils. Il pardonne les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. Donc il y a des gens qui viennent vous dire, oui, mais Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'abord, il l'a dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a condamné, si vous lisez la fin de l'Évangile, quand il est dans son procès, donc il a bien dit. Et après, il n'a fait que montrer qu'il était le Fils de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, où on ne présente que 7 miracles de Jésus, alors il est aussi écrit, Jésus a fait tellement de miracles, que si on écrivait des livres, ça remplirait la terre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la foi. La vie en son nom, la vie en son nom. Et que vous ayez la vie en son nom, en croyant en lui, en invoquant son nom. Parce que Jésus, même s'il est tout puissant et qu'il fait des miracles, eh bien, si vous ne voulez pas de lui, vous ne voulez pas de lui. Hein. C'est suicidaire, mais bon. Si vous ne voulez pas de lui, vous ne voulez pas de lui. Mais si vous invoquez son nom et que vous lui demandez de venir dans votre vie et changer vos vies, il le fait. Moi, il l'a fait. Le jour où j'ai dit, oui Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, ben, il l'a fait. Et ma vie, elle a changé. Jésus pardonne les péchés. Après, on continue. Jésus commande au vent et à la mer. Mais qui commande au vent et à la mer ? Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui commande au vent et à la mer. Et là, Jésus, il arrive. Il y a une tempête, silence, tais-toi. Il parle comme si c'était une personne. Silence, tais-toi. Il menace le vent, il menace la mer. Mais qui fait ça? Où on voit ça? On voit ça chez Jésus. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Christ, c'est le Messie. Il est incomparable. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et heureusement, il veut de bonnes choses. Alléluia. Il commande au vent et à la mer. Il ressuscite les morts. Dans l'Ancien Testament, on a voit des résurrections de morts qu'au travers d'Élie et d'Élisée. Mais Jésus en a ressuscité beaucoup, et c'est surtout la façon dont il les ressuscite. Ce qui est marrant, c'est que Jésus parle. Il ne prie pas, lui. Il ne se met pas à genoux. On va jeûner pendant 3 semaines, et on va voir ce qui va se passer. Il ne demande pas à Dieu. Il parle. Il a l'autorité. Commande au vent et à la mer. Il ressuscite les morts. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. La veuve de Naïn, dans Luc 6, je crois, ou 7. Voilà, il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Jésus, il le fait. Jésus le fait. Alors, il y a le côté Frenchy, là. On va parler de bouffe et de pinard. Donc, j'ai mis un petit drapeau pour dire... I'm glad to be French. Donc, il multiplie la nourriture. Ça me plaît. Vous invitez les copains, il n'y a pas assez. Seigneur, merci. Pouf, il y a assez. Voilà. Mais qui peut faire ça, de multiplier de la nourriture, c'est-à-dire tu crées de la matière. C'est incroyable. Qui fait ça? Et puis, il n'a pas prié pendant 3 heures. Il a juste dit, vous distribuez. Et c'était fait. Il change l'eau en vin. Ah, je vais faire des expériences à la maison. On a acheté un récupérateur d'eau de pluie. Je vais poser mes mains, je vais prier très fort, Seigneur. Les 300 litres là, Gevrey, Chambertin, millésime, non, pas ça. Non. Après, il y a le goût de plastique, c'est peut-être pas génial. Non, voilà. Mais là, il est invité à un mariage. Manque de bol, il manque de vin. Il y avait des jars, c'est une maison juive, donc les juifs se purifient avec de l'eau. Enfin, C'est une purification, ce n'est pas de l'hygiène, hein, c'est une purification spirituelle. Donc il l'utilisait pour des raisons religieuses, il se purifiait avec de l'eau, il mettait donc de l'eau propre dans des jarres en argile, qui était assez grande, donc il y avait de la place, il y avait beaucoup de litres. Et donc lui, il a transformé l'eau en vin. Et le vin était meilleur que le vin d'avant. Donc. Alors que normalement, on sert le bon vin en premier, et puis quand les gens commencent à être un peu pompettes, on met le vin qui est moins bon. Voilà, donc toutes ces choses-là, Jésus le fait. Il enseigne avec autorité, ce que ne faisaient pas les responsables juifs. Les gens étaient frappés par son autorité. Et puis il a une autorité sur les démons. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas dans l'Ancien Testament. C'est une nouveauté. Les gens étaient surpris de voir qu'il parlait aux démons et qu'il commandait avec autorité. Il est chassé, sort, tout ça. Et il est chassé. Et pas des petits démons, hein, parce que quand il délivre l'homme où il y avait une légion en lui, là, c'était même quelque chose qui était territorial. Hein. Parce que quand vous regardez dans certains des évangiles, ils ont dit à Jésus, ne nous chasse pas du pays. Donc c'était territorial, là, carrément. C'était vraiment une bande qui régnait sur un territoire. Et donc, quand ils voyaient Jésus, ils avaient peur. Ils disaient, mais t'es qui? T'es là, toi? On ne t'attendait pas si tôt, tu es venu pour nous perdre. Ah, mais on pensait que tu allais arriver plus tard. Tu vois, même le diable n'était pas au courant du plan de Dieu. Ce qui est assez normal d'ailleurs. Hein. Mais bon. Et donc, il est chassé, il leur interdisait de parler parce qu'il savait qui il était. Il disait, tu es le fils de Dieu. Tu vois, le diable, lui, il sait qu'il est le fils de Dieu, lui. Le diable sait très bien que Jésus est le fils de Dieu. Lui, il n'a aucun problème. Hein. C'est peut-être nous qui avons un problème. Hein. Et le diable aussi, il croit en Dieu. Le diable, il croit en Dieu et il tremble, il a peur. La Bible dit que le diable croit en Dieu et il tremble. Et les démons, quand ils voyaient Jésus, ils tremblent. C'est étonnant, hein ? Non, c'est pas étonnant en fait. C'est normal puisqu'il est le Fils de Dieu. Nous savons qui tu es, le Fils de Dieu. Quand on lit ces choses-là, pas juste pour lire que dans la Bible, mais Jésus fait des miracles. Mais quel miracle ? Et qu'est-ce que ces miracles montrent ? Qu'est-ce qu'ils nous montrent ? C'est que ce sont les signes du royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de mort, pas de maladie, pas de démons, pas de méchanceté, et on n'y pensera même pas. Nous serons dans des corps ressuscités. Et c'est important pour nous chrétiens, parce qu'on dit, voilà, bon, quelqu'un meurt, il est chrétien, il va au ciel. Mais ce n'est que l'état intermédiaire, le Seigneur. C'est l'état intermédiaire. Un jour, le royaume de Dieu, il sera ici, sur la terre, dans une terre renouvelée, des cieux renouvelés, où les gens qui seront dans le royaume de Dieu seront dans des corps ressuscités et qu'ils verront même Dieu face à face, ce qui est impossible pour un homme actuellement. C'est ça le royaume de Dieu, c'est cette espérance. Et c'est important de savoir ça parce que des fois vous tombez sur des gens qui vous sortent le raisonnement qu'on appelle le dilemme d'Épicure, qui vous disent on ne peut pas croire en un Dieu qui soit à la fois bon et tout puissant et qui permette et puis qu'on vive dans ce monde-là. Donc, ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est que la méchanceté du monde, c'est dans le plan de Dieu de la faire disparaître. Simplement, il va le faire à sa façon et en son temps. Donc, il y a deux événements essentiels pour débarrasser l'univers du mal. C'est la première venue de Jésus, qui, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, est une victoire non pas définitive, mais décisive. Un petit peu lorsque les Alliés ont débarqué à la Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 1944, ce n'était pas une victoire définitive. La victoire définitive, c'était le 8 mai 1945, mais c'était une victoire décisive. Parce qu'à partir du moment où ils ont pu débarquer, ils avaient une tête de pont, ils pouvaient faire passer des hommes, du matériel, de la nourriture, des médocs, et tout ça. Bon. Donc là, c'est pareil. Enfin, ce n'est pas la guerre, mais c'est pareil. C'est la guerre spirituelle, en fait. Mais Jésus, en deux temps, il est venu. Le premier moment, c'est qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a montré les signes du royaume, il a annoncé le royaume de Dieu et il a dit « Je vais revenir ». Cette fois-ci, non pas dans un corps comme le vôtre humain qui meurt et tout ça, mais je vais revenir dans la gloire. Et là, on va séparer, livrer du bon grain. On va faire une séparation entre ceux qui vont être citoyens du royaume de Dieu, qui le sont déjà devenus, et ceux qui ne le sont pas. Et là, le royaume de Dieu, il va s'établir avec puissance. C'est-à-dire qu'on n'entendra plus parler de mort, de deuil, on n'entendra plus parler de guerre et de bruit de guerre, on n'entendra plus parler de cette perversion, parce que les hommes qui rentreront dans le royaume de Dieu seront débarrassés de ces choses-là. Ils en seront débarrassés, ça n'existera plus, ça ne viendra plus à l'esprit. L'ambiance qui aura, on va baigner dans un état d'esprit qui sera tout à fait différent. Donc, aller au ciel quand on meurt, quand on est chrétien, ce n'est que l'état intermédiaire. Mais notre espérance, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas prêché le ciel. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas et que ce n'est pas important. Mais il a prêché le royaume de Dieu. Parce que c'est l'expérience finale. C'est ça en quoi nous espérons. Donc quand il y a des gens qui viennent vous dire « Ouais, si Dieu est bon et qu'il est tout puissant, pourquoi le mal ?» Et on a l'impression qu'il s'en fiche de nous. Donc Épicure n'était pas athée. Mais il ne croyait pas que Dieu se souciait des hommes. Il croyait que c'était un Dieu indifférent. C'était, voilà, vous vous débrouillez. Moi, j'ai mis la machine en route. Maintenant, démerdons zizich. Vous vous débrouillez, vous faites avec. Non, ce n'est pas du tout ça. Dieu a bien un plan qui est plein de bonté, un plan qui va amener le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus, donc, sa grande mission, c'était d'annoncer le royaume de Dieu et de le démontrer. Donc c'est très très important. Après, donc, à partir du verset 7, Jésus va parler à la foule de Jean-Baptiste. Jésus, comme les envoyés, les deux disciples donc, qui étaient venus vers Jésus s'en allaient, avec la réponse de Jésus, donc Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. Il leur dit, qu'êtes-vous allés voir au désert? Il leur demanda, un roseau agité ça et là par le vent. Donc on a vu que Jean-Baptiste, lui, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas influencer par les hommes. Il n'était pas agité, ça et là, par le vent. Jean-Baptiste, il était comme ça. Et il tenait la barre et il ne déviait pas du cap. N'est-ce pas ? Qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance. Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Bon, évidemment, Jean-Baptiste, lui, avec une peau de chameau et une ceinture de cuir en mangeant des sauterelles et du miel, c'était pas vraiment son... c'était pas son milieu. Par contre, les gens qui ont voulu le mettre à mort venaient de ce milieu. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète, c'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Et là, il dit quelque chose vraiment qui devrait vraiment nous faire percuter. C'est vraiment très, très frappant ce que dit Jésus là. « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc, on voit la place unique de Jean-Baptiste dans l'histoire de l'humanité. La place unique de Jean-Baptiste. Et après, il dit, et c'est encore plus choquant, c'est encore plus choquant. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est-à-dire que demain, si vous avez un, excusez-moi de le dire, un meurtrier, on en a parlé un peu hier, un meurtrier qui se convertit et qui met sa foi, son espérance et sa confiance en Jésus, eh bien, il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce qui est arrivé à un des deux condamnés qui a été crucifié à côté de Jésus. Il y en a un qui lui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quand tu viendras dans ton règne, c'est quand Jésus va revenir et qu'il va établir le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus lui a dit « Ce soir, tu seras avec moi au paradis. » Il était plus grand que Jean-Baptiste. Et c'était un meurtrier qui était condamné à mort à cause de ses meurtres. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste est lié dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça le problème. C'est que Jean-Baptiste, dans son humanité, il était moins que quelqu'un qui rentrait dans le royaume de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi c'est important de rentrer dans le royaume de Dieu. Et que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'un jour ce royaume de Dieu il va venir, il va s'établir sur la terre. Et l'évangile, c'est cet évangile-là qu'il faut prêcher. Ce n'est pas l'évangile uniquement de dire que Jésus t'aime et tout ça. La Bible, Jésus t'aime, oui. Il nous aime tellement, et Dieu nous aime tellement, qu'il a jugé bon, a dit Jésus, ne crains point petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Voilà comment il nous aime. Il nous donne le royaume. Le Père nous donne le royaume dans sa bonté. Il nous dit, voilà, moi j'ai prévu autre chose pour vous, pour l'éternité. Votre éternité, ce n'est pas d'investir sur la terre. Votre éternité, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça doit nous faire travailler. Le plus petit, qui est dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit quelque chose qui est encore plus énigmatique, un des versets les plus difficiles à comprendre de la Bible. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Comment interpréter ce verset ? Aïe, chef, j'ai mal, chef. Il dit, en effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi ont prophétisé, et si vous voulez le croire, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, depuis que Jean-Baptiste est arrivé, le royaume de Dieu est prêché et annoncé, et il y a une certaine forme de violence. Alors Jésus n'a jamais, contrairement à ce que certains disent, il n'a jamais prêché la violence du tout. Par contre, il a beaucoup subi. Parce que quand même, il est mort d'une mort atroce. Il a quand même été flagellé jusqu'au sang, il était méconnaissable, et ils l'ont cloué sur une croix. Lui, il a subi la violence, et il a subi la violence de tous les gens qui l'ont critiqué, qui l'ont maudit, qui l'ont insulté, et toutes ces sortes de choses. Voilà, donc Jean-Baptiste et Jésus, ils ont subi la violence. Mais quand il dit que le royaume de Dieu se force un passage avec violence, alors, dans l'évangile de Luc, il nous est dit, j'essaie de le retrouver, non, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Enfin, toujours est-il qu'il y a deux formes d'interprétation. Si vous l'interprétez négativement, vous dites que le royaume de Dieu, il arrive, mais il a beaucoup d'opposition, c'est ce qu'on voit aussi. Et ce sont les violents qui s'en emparent, donc ce serait le côté de l'opposition. D'autres disent, il y a un côté, c'est un côté plutôt positif, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, il est violent vis-à-vis du royaume du diable. C'est pour ça que Jésus chassait des démons et qu'il ressuscitait des morts et tout ça. Donc il y a une forme de violence parce que le royaume de Dieu, il agresse le royaume de ce monde qui est méchant et mauvais dans ce sens-là. Mais je pense que le mieux, c'est d'y voir un peu les deux. C'est-à-dire que le royaume de Dieu arrive avec puissance et une certaine forme de violence vis-à-vis du royaume du diable et il suscite de l'opposition. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il est l'Élie qui devait venir. Et Élie, il a subi beaucoup de violence et il a rencontré beaucoup d'opposition, comme tous les prophètes d'ailleurs. Voilà. Donc c'est important de dire ces choses-là. Jésus est bien conscient du combat spirituel qui est en jeu pour le salut des âmes. Et Jean-Baptiste et Jésus ont joué vraiment un rôle très important, encore plus Jésus que Jean-Baptiste, mais le rôle de Jean-Baptiste était quand même très important, mais le plus petit dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc vraiment, c'est important de comprendre ces choses-là. Après, Jésus fait une remarque sur des gens de notre temps. C'est lié à ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste et ce que fait Jésus dans son ministère. Il dit « À quoi pourrais-je comparer les gens de notre temps ? Ils sont comme des enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Oh, il a un démon en lui. » C'est cool ça. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Je ne sais pas si vous avez observé des enfants qui jouent. Quand vous avez des enfants qui jouent, en général, s'ils s'ennuient, ce qu'on a tous connu dans notre enfance, on essaie d'inventer des jeux. On essaie de trouver une activité. Des fois, on essaie même d'embêter quelqu'un. J'étais beaucoup dans le côté, j'essayais d'embêter quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Bon. On essaie de se trouver des jeux, tout ça. Et puis, vous avez toujours quelqu'un qui ne veut pas faire avec les autres. Il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais non, bon, je, ça ne me convient pas, ça ne me va pas. » Il reste un peu dans son coin et je ne veux pas. Non, moi, je veux. Ce n'est pas comme ça. Si on ne fait pas ce que je dis, je ne fais pas avec vous, je ne joue pas avec vous. Voilà. Non, on commence à bien me faire. Et vous avez des gens comme ça. Et là, Jésus est en train de dire, vous êtes comme ça. Il a dit, vous avez Jean-Baptiste qui arrive, il y a plein de gens qui vont se faire baptiser, qui confessent leurs péchés, et vous, vous dites, il a un démon. Parce qu'il ne boit pas de vin, parce qu'il fait... voilà, vous dites... il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin, donc... vous dites, il a un démon. Jésus arrive, il fait le contraire. Il mange, il boit du vin, il va avec les gens qui sont pécheurs vis-à-vis des juifs. Il fait exactement le contraire. Et vous dites, ah ben lui le pauvre, il a, qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'ami des pécheurs. C'est l'ami des pécheurs. Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Donc l'autre, il est à 7, il a un problème. L'autre, c'est l'ami des pécheurs, il a aussi un problème. Il n'y a rien qui va, quoi. Vous avez rencontré ce genre de personnes ? Alors les gens, ils arrivent, ils voient Jésus, il enseigne comme personne n'enseigne, il prêche comme personne ne prêche, il fait des miracles extraordinaires, tout ça. Et qu'est-ce que les gens disent ? Au lieu de se poser des bonnes questions, « Ah ben lui, il va avec les pécheurs, donc, c'est un pauvre type, et l'autre, il fait rien du tout, il est triste comme la mort, lui, il a carrément un démon. » Voilà. Et donc, ce genre d'incrédulité, vous savez, c'est ce genre de personnes qui veulent imposer à Dieu leur propre vision des choses, leur agenda. Dieu devrait faire ci. Ah, mais si Dieu existe, il devrait faire ça. Ah, mais alors si c'est lui, si c'est Jésus, pourquoi il n'a pas fait ça ? Et celui, c'est un prophète, pourquoi il ne fait pas ça ? Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Et c'est toujours, on ne veut pas rentrer dans ce que Dieu fait. On veut toujours imposer à Dieu notre vision des choses, lui dire ce qu'il a à faire et lui imposer notre agenda. Et donc, pour eux, Jésus, il est une occasion de chute. Ils ne croient pas en lui, ils passent à côté. Et des gens comme ça, vous en avez rencontré et vous allez en rencontrer beaucoup. Il faut leur dire, mais vous êtes comme les gens de l'époque de Jésus. Vous leur montrez dans la Bible, vous êtes comme les gens. Jean-Baptiste, il a un démon et Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Et c'est exactement les reproches qu'on fait à Jésus. Quand vous lisez les évangiles, c'est exactement ce qu'on lui reproche. Mais Jésus lui a dit, moi je ne suis pas venu pour les bien portants comme vous, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont suffisants et qui se croient plus justes que les autres. Je ne suis pas venu pour des gens comme vous. Moi je suis venu pour appeler des pécheurs à la repentance et les sauver. Et si vous voulez savoir comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Vous avez la charte du royaume de Dieu dans le sermon sur la montagne. Et ça commence par quoi, le sermon? Ça ne commence pas par dire « faites ceci, faites pas cela ». Ça commence par dire « heureux ». Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui voient leur misère, leurs besoins spirituels, qui sentent qu'ils ne vont pas s'en sortir par eux-mêmes au niveau spirituel, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin qu'on vienne les aider. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont les gens qui ont conscience de leurs besoins, de leur misère spirituelle. Et Jésus dit, car le royaume des cieux est à eux. Ah. Voilà une des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est de voir qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à y entrer. Parce qu'on n'y rentrera pas par nous-mêmes. Mais ces gens qui sont suffisants, eux, ils sont satisfaits. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ça suffit. Ça suffit. Ils sont contents d'eux-mêmes. Et ils ont beau avoir le Fils de Dieu qui fait des choses extraordinaires, ils ne croient pas. Et Jésus est pour eux une occasion de chute. Et Jésus dit, « Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. » C'est-à-dire que ce que Jésus fait et accomplit démontre de manière indéniable la sagesse de Dieu et son œuvre parfaite. Et il dit, « Cependant, la sagesse de Dieu est reconnue comme telle par ceux qui la reçoivent. » Donc, on va un peu accélérer. Après, Jésus va donner des sévères reproches aux villes où il est passé. Il va leur dire, « Malheur à vous, malheur à toi, Chorazie, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, qui sont des villes païennes, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvant de cendres, ce qui était une attitude dans le Proche-Orient ancien lorsqu'on menait deuil, en fait, qu'il y avait une grande menace ou qu'il y avait un grand malheur. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, qui est vraiment la ville exemplaire du péché, la ville, proverbiale, même plus que proverbiale, parce que c'était un fait, mais c'était vraiment l'exemple qu'on mettait pour parler du mal absolu dans l'attitude de citoyens qui appartiennent à une ville, c'était... Et là, Jésus est en train de dire, mais ton jugement sera pire que celui de Sodome. Parce que toi, tu as vu, tu as entendu tout ce que tu as vu et tu as entendu et tu n'as pas changé. Tu as dit, ah, ben, lui, il a un démon et l'autre, c'est l'ami des pécheurs. Et si Dieu fait ça, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et toi, tu crois ou tu crois pas. Et c'est ça. Et c'est là qu'est la clé. C'est là qu'est la clé. Donc la rébellion et l'incrédulité ont des conséquences dramatiques. Voir Dieu agir et rester fermé équivaut à un suicide spirituel. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Et puis là, on arrive au point le plus culminant, parce qu'on a beaucoup parlé qu'on se confie en Dieu, que Dieu est bon et tout ça. Et Jésus leur dit cette chose-là. Il leur dit, « Je te loue, ô Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses, donc les choses du royaume de Dieu, la sagesse du royaume de Dieu, aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire aux gens qui sont suffisants, qui croient, ils savent. » Ils sont capables d'évaluer, ils ont la connaissance, ils ont la sagesse. Mais quand ils voient Jean-Baptiste, il a un démon. Et quand ils voient Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Et que tu les as révélés à ceux qui sont tout petits. Les tout petits, ce n'est pas seulement des enfants. Les tout petits, ce sont ceux qui sont comme les enfants, c'est-à-dire qui font confiance, qui croient. Et qui se savent petits, surtout. Oui, Père, qu'en ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, dit Jésus. Donc c'est lui qui a l'autorité, comme on l'a vu. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, qui donne la connaissance du Fils? C'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et qui donne la connaissance du Père? C'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Dieu reste quand même Dieu reste souverain. Mais si on est suffisant, si on sait qu'on croit et qu'on veut donner des conseils à Dieu, ça va être difficile de recevoir ce genre de révélation. Enfin, le Seigneur est bon, des fois il passe par-dessus, il nous fait quand même grâce. Venez à moi, et là, l'importance de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Souvent, ce sont les gens qui sont pauvres, enfin, qui sont pas favorisés par la vie, et qui vivent un certain fardeau, qui sont les plus ouverts, qui se disent, j'ai quand même besoin d'aide, j'ai besoin quand même que quelque chose se passe dans ma vie. Et il leur dit, mais moi, je vais vous donner du repos, moi, là. Moi, je suis tellement l'ami des pécheurs que je les délivre, je les guéris, je les pardonne, je les purifie, et je les fais rentrer dans mon royaume. Moi, je vous donnerai du repos. Jésus, il donne le repos. Lui, il donne le vrai repos. Et il dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Donc ça, c'est le côté suivre Jésus. Donc il y a le côté venir à Jésus et le côté suivre Jésus. Le côté suivre Jésus, c'est prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Ça nous change des, vous savez, de ceux qui disent j'ai gagné, je suis le meilleur, j'ai le meilleur programme politique. On voit comme ça des chefs d'État qui, quand on les voit, on voit d'abord la tête arriver, qui passe pas par la porte, et on entend les dents. Par terre. Par terre. Et puis après, quand ils sont passés, on voit tous les dégâts qu'ils ont faits. Et on s'est dit, oh là là, heureusement que Jésus nous aime, hein, parce que lui, quand il gouverne, c'est pas du tout la même gouvernance. Je suis doux et humble de cœur. Et pourtant, il a toute la puissance qu'il veut. Il pourrait balayer tout ce qui s'oppose à lui comme ça. Tous les gens qu'il voulait. Il pourrait faire ce qu'il voudrait, Jésus. On l'a vu. Mais il est doux et humble de cœur. Lui, son but, ce n'est pas de perdre les hommes, comme il dit, c'est de les sauver. C'est de les sauver. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. J'ai eu comme un soupir à l'intérieur de mon esprit qui dit « Enfin !» Et je suis rentré dans le repos. Et depuis ce jour-là, la vie, elle est ce qu'elle est, elle a les problèmes qu'elle a, et elle a les vicissitudes qu'elle a. Mais depuis ce jour-là, je suis jamais sorti de ce repos. Et il y a un certain repos. Je sais qu'il peut m'arriver des choses très dures, mais je suis dans la main de Dieu. Je suis dans la main de celui qui est doux et humble de cœur. Et je trouve le repos. Il dit « Mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Suivre Jésus, ce n'est pas se mettre des tas de choses sur le dos. C'est de l'écouter. C'est de laisser conduire par son esprit. On rentre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, la régénération, par la vie de l'esprit en nous. C'est Dieu qui te qualifie pour le royaume de Dieu. On ne peut pas y rentrer par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui te qualifie. C'est Dieu qui fait de toi un citoyen de son royaume. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont les gens qui écoutent leur roi. Et leur roi, c'est Jésus. Il est doux et homme de cœur. Mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Mais le conseil de Dieu, c'est le conseil de la vie éternelle. C'est le conseil qui nous conduit à bon port jusqu'au jour où Jésus reviendra et que le royaume de Dieu s'établira de manière définitive sur la terre. Donc Jésus nous mène au Père. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Le Père, il aime tellement le Fils. Ça se passe comme ça dans la Trinité. Le Père, il aime tellement le Fils qu'il fait tout pour le Fils. Il lui donne tout. Il fait tout au travers de lui, la création, la rédemption, tout ça. Il fait tout. Il va tout faire au travers du Fils. Le Fils, il aime tellement le Père qu'il a envie de faire une seule chose, de faire tout ce que le Père lui demande. Donc ils en pètent d'amour. Dans la Trinité, ça pète d'amour. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui fait le lien. Donc quand le Père et le Fils nous donnent le Saint-Esprit, il nous faut rentrer dans cette intimité. Et l'Église doit être un reflet dans nos relations, aimez-vous les uns les autres, de ce qui se passe dans la Trinité. C'est pour ça qu'il nous dit aimez-vous les uns les autres, parce que Dieu le vit, lui. Il le vit dans la Trinité. Comprenez ça? Il le vit dans la Trinité. Alors juste un truc sur la Trinité. La Trinité, c'est quoi? Une seule nature, une seule essence et trois personnes. Alors, pour l'expliquer, on va faire un truc simple. On va essayer de comprendre. Vous et moi, on est des êtres humains. D'accord? Mais moi, je suis moi. Je ne suis pas Michel. Si vous demandez à Michel d'être moi, il va dire, attends, je veux bien être Michel, mais pas Dominique, attends. Pourtant, il n'a jamais renoncé à être un être humain, et moi non plus. Donc, par essence, on est des êtres humains. Mais lui, c'est Michel. Ma femme, elle a 35 ans de mariage, vous lui dites, tu veux être Dominique? Elle a dit, faut pas déconner quand même. Je veux bien qu'on raconte des blagues, mais là, il y a même des jours où j'ai même pas envie d'être moi. Ça s'appelle les jours sans, vous savez. Je me regarde et je dis, j'ai pas envie d'être moi. Ça arrive même, ça. Donc voilà la différence entre une nature, le concept d'essence de nature, et le concept de personne. Voilà, donc dans la Trinité, ça se passe pareil. Il y a un seul Dieu et il y a trois personnes. D'accord? J'espère que ça vous aide. Donc, le Fils s'aime, ils se connaissent parfaitement. Et Dieu nous rentre dans cette dimension. Un joug doux et léger. Ça ne veut pas dire que tout roule, tout est facile. Ça veut dire qu'il est là. Qu'il est là. Amen. Donc, venir à Jésus, venez à moi. Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus étanche les besoins les plus importants de notre cœur, qui sont des besoins relationnels. Des besoins, on a besoin d'aimer et d'être aimé. Le Père et le Fils le vivent. Ils le vivent entre eux, ils nous le font vivre, nous, individuellement avec eux, et nous ensemble, les uns vis-à-vis des autres. Donc, Dieu nous appelle à suivre Jésus. On peut se poser, donc on va aller à la slide qui dit qu'on récapitule, on va finir. On peut, comme Jean-Baptiste, se poser beaucoup de questions sur Jésus, normal. Mais les œuvres de Jésus parlent pour lui-même. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, parle pour lui-même. Elle rend témoignage de ce qu'il est et de ce qu'il sera pour l'éternité. Jésus est venu apporter le royaume de Dieu, dont il est le roi. Et ses œuvres attestent de ses réalités et de sa personne. Lorsqu'on impose nos vues, nos exigences et notre agenda à Dieu, on reste dans l'incrédulité et l'on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui sont pauvres en esprit et qui disent « j'ai besoin », eux, ils sont réceptifs et ils reçoivent. À ceux qui viennent à lui dans la foi, il leur donne le repos surnaturel dans un monde chaotique et perdu. Cette paix vient de la connaissance intime avec le Père et le Fils. À ceux qui le reçoivent, il les conduit dans un chemin de vie, de foi, d'amour, d'espérance et de sagesse. Jésus fait ces choses-là. Jésus fait tout ça. Il faut bien comprendre, nous n'avons pas affaire à une religion comme une autre. Nous avons affaire à une réalité qui est déjà présente, le royaume de Dieu, et une réalité qui va aller en s'intensifiant jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Et il y aura du combat. Voilà. Il y aura de la violence envers nous. Nous ne sommes pas appelés à être violents. Mais c'est un combat. Donc, conclusion, Jésus est tout ce qu'il te faut. Ses œuvres démontrent qu'il est le Fils de Dieu, ton Sauveur. Il est le seul qui peut te donner la vraie vie, la paix éternelle, car il te conduit au Père. Et la meilleure décision que tu prendras dans ta vie est celle de venir à Jésus et de le suivre. C'est la meilleure décision de ta vie. Et c'est ça que nous devons vivre et dire aux gens qui sont autour de nous. Tu peux prendre toutes les décisions que tu veux. La meilleure, c'est de venir à Jésus et de le suivre. C'est parce qu'il est le Christ, le Sauveur. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous allez voir notre cher pasteur, son épouse n'est pas là, mais notre cher pasteur qui est là, et vous pouvez me poser des questions aussi à des personnes dans l'église. Si vous me posez des questions, j'essaierai de répondre du mieux possible. Si je ne sais pas, je vous envoie vers dans notre pasteur, je lui file le bébé. Je suis un mec sympa, moi. Tu vois, quand il y a trop de travail, j'en donne aux autres. Voilà. Donc... Et donc, voilà, donc que Dieu vous bénisse et vous fasse vivre pleinement son royaume. Amen.